Avez-vous déjà commencé à faire votre liste de cadeaux pour les fêtes? Oui? OK. Certains, non. Certains ont déjà commencé à acheter leurs cadeaux. Oui. Il y en a qui aimeraient avoir un beau vase de fleurs. Qui aimerait avoir un beau vase pour mettre des fleurs dedans? Personne?
J'en ai eu un.
T'en as eu un?
Oh, déjà.
OK. Parce que je parle de ça parce que ce matin, on jasait, Robert, Jean et moi, puis j'ai pensé, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose que Robert, mon frère, m'avait partagé concernant des vases japonais. Avez-vous déjà entendu parler du kintsugi? Wow! Le kintsugi, écoutez ce que ça dit là. La recherche IA, là. Les vases japonais refaits en or font référence à l'art du kintsugi, qui consiste à réparer la céramique cassée en mettant en valeur les fissures avec de la laque saupoudrée de poudre d'or. Il peut aussi s'agir de vases originaux ornés de décorations en or. Mais c'est, j'ai pas eu le temps de télécharger l'image, là. Mais je ne sais pas si vous voyez là un peu le vase, un vase noir qui a été tout cassé en petits morceaux. Et puis ils refont le vase avec des soudures en or. Puis ça prend de la valeur, c'est encore plus beau. Wow! Puis c'est de ça qu'on va parler ce matin, les amis. Quand un cœur revient à Dieu... C'est un peu comme nous, la Bible dit que nous sommes comme des vases d'argile. Hein? On sait qu'on est fait d'argile, Dieu nous a créés de la terre. Puis on vient tous à Jésus brisés. On est comme des vases brisés. Puis Dieu est le seul qui est capable de transformer le mal en bien. Amen. Il est capable de faire quelque chose de beau, même plus beau, plus de valeur qu'avant. Fait que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et puis, on est dans la série de David. Ça me prendrait un volontaire tantôt pour lire le psaume 51. Fait que pendant que je parle un petit peu, pensez-y. Jusqu'à date, on a vu l'histoire triste de la chute de David. Hein? On est dans la série « David, un homme selon le cœur de Dieu ». Puis on arrive au deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, qui sépare le livre de 2 Samuel en deux. Et puis tout ce qui vient avant, c'est glorieux. C'est pas sans ses petits défauts, David, mais c'est glorieux. C'est un modèle à suivre. C'est un modèle de foi. Hein? David terrasse le géant Goliath, puis il fait confiance à Dieu dans tout. Il loue le Seigneur. On a vu le psaume 23, on a vu d'autres psaumes. On a vu que c'est un livre ouvert avec Dieu. Et puis, on arrive à ce fameux chapitre dans 2 Samuel 12, et puis David chute, mais pas à peu près. Comme un adultère avec Bathsheba, et s'organise pour faire tuer son mari, et couvre tout ça, c'est un scandale. Et puis, on dit, « Ben, mon ami, c'en est fini de lui. » Et pendant un an, il ne se passe rien. Mais après un an, Dieu envoie le prophète Nathan qui lui raconte une petite histoire. Vous vous rappelez la petite histoire? La brebis. L'homme riche avec plein de troupeaux, puis le petit pauvre avec sa petite brebis qui est comme un animal de compagnie. Puis le riche, il reçoit un visiteur. Et puis, au lieu de prendre une brebis dans son troupeau, il vole la brebis du voisin, tue la brebis, la prête. Et puis, David, il s'enrage. Il est enragé par l'injustice. Et il dit, « Qui est cet homme? Il mérite de mourir. » Puis, il va restaurer 4 fois la brebis. Nathan dit, « C'est toi. » Pendant ma carrière de médecin, c'est arrivé plusieurs reprises quand même que, après avoir examiné un patient et découvert c'est quoi le problème, je lui explique le problème, puis le patient, non, non, ça se peut pas. Non, non, c'est pas ça. OK. OK. J'ai lu sur Internet, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Ah, OK, bon. Puis je me rappelle d'un homme en particulier, il avait des cataractes assez avancées, je l'examine, je dis, monsieur, vous voyez pas, je pense qu'il avait même pas la vision pour conduire, puis j'ai dit, vous avez des cataractes quand même, ça vous prend une chirurgie? Non, 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 ça ne prend pas de chirurgie, j'ai pas de cataracte, c'est pas vrai. Il m'accusait de vouloir faire de l'argent sur son dos. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le fond? Il attaquait le messager. Et on a vu la semaine passée que lorsqu'on est confronté avec notre péché, on a plusieurs différentes options devant nous. On a tout un éventail de possibilités. Dans le catalogue, là, c'est possible de faire toutes sortes de choses pour s'esquiver. Fait que si on vous dit, « Hey, frère ou sœur, je pense que tu as manqué, là, tu as fait quelque chose que la Bible n'est pas d'accord, hein? » Bien là, tu peux sortir ton catalogue puis choisir lequel de ces choses-là que tu vas faire pour t'esquiver. Renier, c'est pas vrai. Mentir pour cacher. Rationaliser, bien là, tout le monde dans ma situation ferait la même chose. C'est juste normal. J'étais dans cette situation-là, puis les choses se sont présentées, puis garde, j'ai fait ce qu'il fallait. Minimiser, ça ressemble, c'est pas grave. Je sais que j'ai fait ça, mais garde, c'est pas grave. Relativiser, ça veut dire, bien, tout le monde le fait, bien, c'est normal, c'est normal. Rejeter le blâme sur autrui, se justifier, j'avais le droit parce que se positionner en victime, c'est pas de ma faute, garde, ça s'est présenté à moi. Puis la dernière, c'est attaquer le messager. Quand on lit l'histoire de Nathan qui confronte le roi avec l'histoire de la petite brebis, là, dernièrement, j'ai relu, puis j'ai dit, « Mais voyons donc, il aurait pu attaquer le messager, il aurait pu dire, « Toi, là, fini. Enlève-lui la tête. » Parce que c'est arrivé dans l'histoire d'Israël puis de Juda, des prophètes qui se sont fait tuer pour le message. Alors, David, il ne fait rien de tout ça. On s'imagine sur son trône, la tête baissée, qui dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va composer un chant. Wow! Un chant! Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il fait, David. David, c'est un musicien. C'est un compositeur, un auteur-compositeur, c'est un artiste, David. Et là, devant cette situation-là, il va faire ce qu'il a toujours fait. Dans toutes les situations qu'il vit, il va écrire le psaume 51, qui est un chant. Et les psaumes, les amis, la musique, ça nous aide à exprimer qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et David admet son péché dans le psaume, il le confesse. Il dit même qu'il est pécheur depuis sa naissance. Donc le péché, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui est venu vers lui, c'est quelque chose de son propre cru. La Bible dit qu'on pêche parce qu'on est pécheur. On ment parce qu'on est menteur. Non pas « j'ai menti, donc je suis menteur ». Non, la Bible dit que l'homme, la femme parle de ce qui vient du cœur. Et David exprime ça dans le psaume. C'est toutes des choses qu'on a vues. Et David, non seulement il reconnaît qu'il a péché, mais il dit, Dieu, tu serais juste dans ton jugement. La vraie repentance authentique, selon ce qu'on a vu les deux dernières semaines, c'est centré sur Dieu dans sa perspective. C'est-à-dire que j'arrête de voir les choses de ma perspective, de ma façon, et j'accepte de prendre la perspective de Dieu sur ma situation. Puis quand je fais ça, je dis, Seigneur, tu as raison, puis même je mérite de mourir pour ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé à 12 ans. Quand le prédicateur a dit, tout le monde passe devant Dieu, un par un, et Dieu voit dans ton cœur. Je me l'imaginais, là. J'ai dit, là, Dieu, il voit que je déteste mon frère pour le tuer. Puis avoir eu un poignard, je l'aurais poignardé au moins deux fois, là, je me rappelle. J'ai dit, je suis fait à l'os. Je mérite de mourir. C'est vrai. Donc, la repentance authentique est centrée sur Dieu dans sa perspective et dans son but aussi. C'est de glorifier Dieu, de dire comme Dieu, puis de se mettre d'accord avec Dieu, ça glorifie Dieu. Mais ce n'est pas juste ça, les amis. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que David recherche maintenant le pardon de Dieu. Wow! Le pardon de Dieu. Basé sur quoi? Sur sa bonté, comme on fait d'habitude les êtres humains. Ben, tu devrais pardonner parce que, dans le fond, je ne voulais pas te faire de mal, puis je suis une bonne personne. Hein? Fait que, s'il te plaît. On demande le pardon basé sur notre bonté, pas vrai? Puis là, c'est pour ça que souvent les gens vont dire, oh non, je ne pardonne pas parce qu'ils ne méritent pas. Désolé, mais ça ne se mérite pas le pardon. Tu ne peux pas le mériter. C'est un cadeau. Donc David, Dieu dit, hey Dieu, rappelle-toi toutes les bonnes choses, Goliath, là, puis Saül, puis toutes les choses que j'ai faites pour toi, puis maintenant je suis à la tête du peuple d'Israël. Non, il n'y a rien de tout ça. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur la miséricorde de Dieu. Il se jette sur la miséricorde, il se jette sur qui Dieu est. Et il dit, « Purifie-moi » au verset 9 du chapitre 51, psaume 51. « Purifie-moi avec l'hyssope, je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hyssope, on a vu que c'était la plante qu'il utilisait dans les rites de purification dans l'Ancien Testament. Il trempait un bout de branche dans le sang et il l'appliquait à la personne ou à la maison ou peu importe l'objet qui devait être purifié par le sang. Ça implique un sacrifice parce que le juste jugement, comme on a dit tantôt, de Dieu contre le péché, c'est la mort. Que t'aies menti mille fois dans ta vie ou juste une fois, tu as brisé la loi. Puis la Bible dit que si tu as brisé la loi en une partie, tu es coupable envers toute la loi. Ça veut dire que le vase est brisé. Puis Dieu décide, Dieu c'est lui qui décide, il dit que ça mérite la mort. Parce que tu avais un devoir infini envers un Dieu infiniment bon, tu avais un devoir infiniment grand d'accomplir sa volonté et tu ne l'as pas fait, donc la punition c'est quelque chose d'infini aussi. C'est la mort. Alors, la mort d'un animal qui remplace le coupable, et le sang est appliqué sur le coupable, et David dit, « Purifie-moi et je serai pur. Je serai pur. » Wow! Pas peut-être, je serai pur. Purifie-moi, Dieu, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige, David, ben voyons donc, attends un petit peu, là. T'as tué Uri, t'as fait un adultère, c'est un scandale, t'as couvert ça, puis là tu demandes que Dieu te rende plus blanc que la neige. Ça semble audacieux, hein? C'est impossible. Et dis pas moins sale. Pas beige, mais blanc, plus blanc que la neige. Wow! Il fallait qu'il y ait une foi de parfaite, exacte, une foi entière en son Dieu, que Dieu veut pardonner et que Dieu peut pardonner à 100% un coupable comme ça. On a vu aussi qu'il faut recevoir le pardon. Faites pas comme moi, là, comme je vous ai dit la semaine passée, quand je manque mon coup puis je pêche, bon, ben là, je me sens coupable, puis je suis honteux, puis je demande pardon à Dieu, puis plus tard dans la journée, je demande encore pardon à Dieu, puis le lendemain, je suis encore en train de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça veut dire que j'ai pas cru. J'ai pas reçu. J'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. Pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je continue de me flageller puis demander pardon? Parce que dans le fond, c'est l'orgueil. C'est que je n'accepte pas d'avoir péché. Je n'accepte pas d'avoir failli. C'est égocentrique. Mais comme j'ai dit, une repentance authentique est centrée sur Dieu, pas sur moi. Ça, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Il faut changer de perspective. Il faut recevoir, parce que Dieu a tout fait à la croix. Jésus a tout fait pour te pardonner. Ça veut dire qu'il veut. Alors, quand on lui demande pardon, c'est de accepter. Dis, Seigneur, je reçois ton pardon. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Donc, ce matin, on va progresser. Ça, c'est toute la révision. Puis, y a-tu un brave ou une brave qui aimerait nous lire le psaume 51 ici en avant, dans le micro? Y a-tu quelqu'un? Oui, Martine? Super. Tu viens en avant? Ou je peux aller chez, avec toi, là? Non, c'est comme tu veux. OK. Mais c'est pour l'enregistrement, là.
Je lis la parole de Dieu. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Le verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Enfin, le verset 21. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes, tout entier. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Prions. Oh oui, Seigneur, grand et redoutable. Tu es magnifique dans ta sainteté. Tu es glorieux dans ta majesté. Tu es incomparable dans ta beauté. Incontesté dans ta souveraineté. Infini dans ta bonté. Intègre dans ta justice. Ô Dieu, Maître de l'univers, nous sommes devant toi. Merci pour ta parole. Donne-nous par ton Esprit Saint, sagesse et révélation pour te connaître ce matin, Seigneur. Oui, Esprit Saint, souffle sur nous des quatre vents. Relève ces eaux mortes et desséchées. Remets la chair sur ces eaux et souffle la vie en elles. Seigneur, en ton nom, repousse toute opposition. On déclare la victoire de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Excellent. Donc, on est rendu au troisième point, revenir. Puis, ce que je vais voir avec vous dans le temps qui reste, c'est une repentance authentique est motivée par la gloire de Dieu et par une joie, par la joie d'une relation restaurée. Non seulement David reconnaît son péché et recherche le pardon de Dieu, mais il veut revenir à Dieu. Lorsqu'on a péché, là, la chose la plus nécessaire, mais aussi la plus difficile, c'est de revenir à Dieu, de revenir vers Dieu. La honte, la crainte, l'orgueil, comme j'ai dit, ne pas accepter d'avoir échoué, peuvent représenter d'énormes obstacles à ce retour, pas vrai? David ici nous donne l'exemple de quelqu'un qui, malgré sa honte, malgré le sentiment de se sentir très sale, il dit « lave-moi », malgré qu'il doive être dans un état profond d'humiliation, de découragement, il se tourne vers Dieu, il revient à Dieu. Il se tourne vers Dieu. Son cœur désire revenir au berger de son âme. Pierre nous dit dans 1 Pierre 2:25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retourné vers le berger, le protecteur de votre âme. » Ah, c'est beau, hein? C'est-tu beau un peu? Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Qu'est-ce qui motive David à revenir à Dieu? Il dit dans le verset 10, « Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Au verset 13, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » Vraiment, David, il en rajoute là. Hein? On a dit, David, il demande pardon, mais il ne demande pas juste pardon, il demande d'être blanchi, plus blanc que la neige. Puis là, il demande à Dieu la joie, de retrouver la joie. Je ne trouve pas que tu en demandes beaucoup, David, là. Ça semble audacieux, mais David revient à Dieu de tout son cœur parce qu'il est la source de sa vie. Dieu est la source de ça. Il ne peut pas être coupé de cette source-là. C'est la source de la vie, la source de la joie. Après tout ce que David a fait, là, chapitre 12, là, on se demande comment ça se fait que Dieu peut l'appeler un homme selon son cœur. Puis il dit encore dans le Nouveau Testament. Là. Fait que ça veut dire que malgré la chute, Dieu dit ça. Wow! Comment ça se fait? Parce qu'il revient. Parce qu'il revient. Parce qu'il recherche Dieu de tout son cœur, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi, mon Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il est parfait, loin de là, mais lorsqu'il pêche, il se repent, il revient et il sait que Dieu est sa source. Et la semaine passée, je pense, ou l'autre semaine, je vous ai parlé que Tim Keller, le prédicateur new-yorkais qui est décédé maintenant, a dit que on est tous des êtres humains, on vit tous comme une espèce de nostalgie de quelque chose qu'on n'a jamais connu, mais qu'on sait qu'il nous manque. Wow! On est tous en quête de quelque chose qui nous manque. On est nostalgique pour ça. C'est quoi? C'est quoi ça? On est tous, ça va? Désolé, on est tous en quête de quelque chose. On est tous en quête de cette relation du jardin d'Éden qu'on a perdu en tant qu'humanité. Et cette relation, c'est la source de notre vie, la source de notre joie. Et les êtres humains sont nostalgiques pour quelque chose qu'ils n'ont pas connu, mais qu'ils savent qu'il leur manque. Ils essaient de combler ça avec d'autres choses, toutes sortes de choses. Et David, lui, il sait, elle est où la source? Il retourne à la source. Et qu'est-ce qui le motive? C'est cette joie. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront, verset 10. Dans certaines versions, les eaux danseront. Wow! C'est toute une image. La joie, quand on fait une recherche sur Internet, il y a encore, est une émotion vive et intense de plaisir, de bonheur ou de contentement qui survient lorsque nos désirs et nos aspirations sont satisfaites. Ça produit la joie. Lorsque les désirs et aspirations sont satisfaits, la joie, c'est l'émotion qui découle de ça. Mais la question se pose alors, est-ce que Dieu partage cette joie? David veut que Dieu lui redonne la joie, mais est-ce que Dieu partage la joie que David revient à lui? Bon. Là, je vous ramène aux paraboles de Jésus dans Luc, le 15. Il a raconté trois paraboles. Hein? La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils perdu. On dit souvent le fils prodigue, mais moi, je préfère le fils perdu parce que c'est trois paraboles sur des choses qui sont perdu. Puis la première, c'est, il dit, qui d'entre vous, s'il y avait 100 brebis et qui perd une brebis, il laissera pas les 100 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Et quand il la trouve, il la met sur ses épaules, il revient avec joie. La deuxième parabole, c'est la femme qui perd une pièce de monnaie dans la maison, puis elle balaie toute la maison, puis lorsqu'elle trouve la pièce de monnaie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage sa joie avec tous ses voisins, toutes ses voisines. Et là, Jésus dit ceci. « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » C'est pas beau, ça? La joie. Dieu éprouve la joie. Le ciel est en fête, les amis. Lorsque on revient, vous vous rappelez aussi la troisième parabole, lorsque le père voit le fils arriver, il confesse, puis il est en train de se repentir, puis le père, il prend là, dans ses bras, puis il l'embrasse, puis il serre fort, 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 puis qu'est-ce qu'il fait après? Il lance la fête. C'est la fête. Et Jésus a conté cette parabole-là pour nous illustrer le cœur du Père céleste. Fait que lorsque tu pêches, lorsque je pêche, pensons à ça. Pensons à la joie. Non seulement la joie que tu vas expérimenter de retrouver cette relation-là, d'être revenu à Dieu, mais que lui expérimente la joie également. Crois-tu que Dieu expérimente la joie lorsque tu reviens à lui? Moi, j'ai de la misère, honnêtement, à croire ça. J'ai de la misère. Mais c'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que la Bible nous dit. La joie est l'état d'âme que Dieu veut pour toi. Savais-tu ça? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète parce que probablement que tu ne m'as pas cru, dit Paul. Réjouissez-vous. C'est l'état d'âme que Dieu veut pour ses enfants, la joie. Mais la joie, ça ne peut pas se produire dans un vacuum. La joie, ça vient lorsque les désirs et les aspirations sont comblés. Ils vont être comblés où? Elles vont être comblées où? En lui, dans la relation avec lui. C'est la joie. Dieu est toujours dans la joie parce que les psaumes nous disent « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Donc, Dieu n'est jamais frustré dans ses aspirations et ses désirs. Jamais. Dieu fait tout ce qu'il veut. Alors, Dieu est toujours dans la joie. Mais Dieu peut être en colère et en joie en même temps. Nous, ce n'est pas possible. Ça, c'est Dieu, là. C'est Dieu, là. Dieu peut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui réjouissent en même temps. Il est le Dieu de toutes ces situations-là. C'est un grand Dieu, hein? Mais il est toujours dans la joie. L'auteur des Hébreux dit, dans le chapitre 12, « Vous, au contraire, vous êtes approchés, non de la montagne qui tremblait, le mont Sinaï, avec les éclairs, les tonnerres, les tremblements de terre, et tout ça était épeurant. Vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. » Wow! Wow! Ses milliers d'anges en fête. La joie, n'oubliez pas qu'elle fait partie intégrante du fruit de l'esprit. L'amour, la paix et la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, David a raison. David a raison d'être motivé par la joie, de revenir à Dieu malgré ce qu'il a fait. On le trouve audacieux, là, David, là, après tout ce qu'il a fait. Là. Demander d'être purifié plus blanc que la neige, mais de retrouver aussi la joie. Mais c'est parce que David connaît le cœur de ton Dieu. David connaît. Le connais-tu, le cœur de ton Dieu? David sait que Dieu va éprouver la joie qu'il revienne à lui. Cette joie découle de la relation harmonieuse avec Dieu. C'est pour ça que Dieu est appelé, que David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Aspires-tu à cette relation restaurée avec Dieu ce matin? Sens-tu que tu as perdu ta joie? Y a-tu quelque chose que tu as besoin de régler avec Dieu? Peut-être que tu t'es jamais mis à genoux devant Dieu, jamais de ta vie, pour dire « Je suis pécheur, Seigneur, je mérite ton juste jugement et je viens à toi pour me sauver, pour me pardonner. Merci pour Jésus qui est mort à ma place à la croix. Je l'accepte, Jésus, comme mon sauveur et maître et je serai ton enfant. » Il faut faire ça. Il faut faire ça au moins une fois. Et si tu le fais sincèrement, la Bible dit, c'est quoi qui se passe? C'est une nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et pour ceux qui l'ont fait, il faut qu'on revienne parce qu'on s'égare. Il faut qu'on revienne. Ce matin, est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'attend à bras ouverts? Est-ce que tu penses que Dieu va te recevoir avec une claque en arrière de la tête? On parlait avec quelqu'un récemment, puis la personne disait que son enfance était marquée par la violence, par les abus, puis juste renverser un verre d'eau sur la table, là, c'était grave. et ça méritait une claque. On peut s'imaginer que Dieu nous attend avec une brique puis un fanal, mais non, la brique et le fanal, là, c'est Jésus qui les a pris sur la croix. Amen. Tu crois-tu vraiment ça? Dieu a choisi de punir son Fils à ta place. Et c'est pourquoi il peut être gracieux. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que son Fils l'a mérité pour toi. Amen. Et non seulement Dieu est prêt à pardonner, mais Dieu veut aussi restaurer la relation. C'est cool, hein? Un nouvel ordi. Revenir, mais restaurer. Parce que Dieu pourrait être comme certaines personnes, dire, OK, je te reprends, là, mais assieds-toi là, puis reste sage, parce que... Puis là, ben, t'es assis comme sur le bord de la porte. Tu reviens, mais la relation n'est pas restaurée. Mais la relation, Dieu veut la restaurer. David aussi veut la restaurer. Une repentance authentique est motivée par la joie d'une relation restaurée. Quelqu'un a dit, la perspective d'une relation restaurée est le puissant moteur de la réconciliation. Wow! La perspective d'une relation restaurée, c'est le puissant moteur de la réconciliation. Et David dit quelque chose de très profond au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il demande à Dieu non seulement de le recevoir, mais de renouveler en lui cette disposition de cœur qui cherche les mêmes choses que Dieu. Il veut renouer avec Dieu. Il veut avoir les mêmes désirs et aspirations que Dieu a. Peut-être que parmi nous, il y a certaines personnes qui sont revenues à Dieu, mais ils n'ont pas retrouvé la joie d'une relation restaurée. Ou peut-être que d'être revenu à Dieu, mais là, vous vous rendez compte que finalement, je n'ai pas les mêmes aspirations, je n'ai pas les mêmes désirs de Dieu. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. Et là, je dis, oh, ouais, je pense que je suis revenu à Dieu, mais je suis resté sur le bord de la porte. David demande, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur pur, c'est un cœur qui cherche à marcher avec Dieu, à marcher dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, comme on a vu en psaume 23. Un esprit bien disposé, ça peut être traduit aussi constant ou ferme, un esprit qui est disposé à s'attacher à Dieu et à rejeter les tentations. Autrement dit, restaurer la relation où ce que Christ est au centre. Où ce que mon âme, mon esprit, mon corps sont réalignés avec Dieu dans une relation saine, transparente, intègre. Quand j'étais résident en ophtalmologie, après 5 ans en médecine, où ce que c'était déjà très, très dur et qu'il fallait performer, ben, ça continuait dans ma résidence pendant 4 ans, où ce qu'on travaillait puis on étudiait en même temps. Puis c'était très compétitif et je suis tombé dans un état de performance. De performance. Puis là, un jour, j'ai appris que l'organisme de l'évangéliste Billy Graham venait à Montréal, puis qu'il allait avoir une croisade là, de Billy Graham. Puis avant, dans les semaines avant, il allait offrir une formation pour les gens qui seraient intéressés. Fait que je suis allé à la formation, je me suis inscrit en me disant, ben probablement que tout ce qu'ils vont me dire, je vais le savoir de toute façon. Mais j'ai été surpris du fait qu'ils n'ont pas parlé de technique d'évangélisation, ils n'ont pas parlé des versets à utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment sage. Ils ont parlé de la relation avec Dieu. Oh! Ça, je ne m'attendais pas à ça. Et après la deuxième ou la troisième fois, j'ai réglé des choses avec Dieu, puis j'ai réalisé que je ne vivais plus pour le royaume de Dieu, mais pour mon royaume à moi. Et que j'avais plus la joie de l'Éternel. Et là, j'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la nouvelle vision de quelle devait être ma vie, vivre pour Christ, vivre une vie christocentrique au lieu d'une vie égocentrique. Je vais terminer avec une illustration qui revient avec l'image du vase au début, le kintsugi. Il y a quelques années, on a entendu parler d'un pasteur qui a chuté gravement, qui a péché gravement. Et puis, il s'est suicidé. Et puis, ses enfants ont dit, dans leur hommage au père, à leur père, « Papa, pourtant, tu savais la grâce de Dieu, surabonde, où est-ce que le péché abonde? » Mais il n'a pas cru. Il n'a pas réellement cru. Tu peux croire avec ta tête, mais tu peux ne pas vraiment le recevoir. Et il s'est suicidé. Quelle tragédie. Je veux vous dire, les amis, qu'ici, à l'Église de l'Espérance de Saint-Félicien, nous sommes tous et chacun des pots cassés. Nous sommes tous et chacun des vases brisés qui sont en reconstruction. On va terminer comme ça et je réinvite mon ami Richard pour la conclusion. Merci beaucoup tout le monde. Que Dieu vous bénisse.